France Inter.
Je suis catholique, apostolique et romain et je crois à l'immortalité de l'âme. Mais étant phénicien et très prudent, je veux en tout cas que la vie terrestre dans les conditions où ils existent maintenant, ils durent le plus que possible. Et c'est tragique parce que je peux me mourir d'un moment à l'autre grâce à Jules Verne qui est en train de nous assassiner tous.
Entre Salvador Dali et Vladimir Poutine. Ah, vous ne vous y attendiez pas, hein, celle-là. Hein. Ben, bien, le peintre, comme le chef de l'État russe, rêve d'immortalité. Le micro de Dali, qui visitait en 1966 une exposition Jules Verne, était bien ouvert. Celui de Poutine à Pékin aurait dû être fermé. Mais mercredi, on a donc surpris sa discussion privée avec le président chinois Xi Jinping. Aujourd'hui, à 70 ans, on a encore un enfant, a dit M. Xi. Avec le développement de la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés continuellement et les gens pourraient devenir immortels, a répondu M. Poutine. Pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas encore enterré la grande faucheuse ? Salvador Dali, vous l'avez entendu, accusait Jules Verne à cause de l'écrivain, expliquait-il. Tout l'argent est allé au voyage vers la Lune ou vers les grands fonds. Mais aujourd'hui, le financement est là, celui de l'industrie agroalimentaire, comme des multimilliardaires américains qui financent des innovations et des start-up pour combattre le vieillissement, voire atteindre l'éternelle jeunesse. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman, pas mal de grands noms aussi des cryptos, et bien sûr Peter Thiel, l'ultra-riche libertarien, le fondateur de PayPal et Palantir, qui a prévu, lui, de se faire cryogéniser puis décongeler quand on aura la solution. En attendant, pour ne pas lâcher les manettes, il reste une autre solution classique dans les entreprises comme dans les institutions, c'est repousser la limite d'âge habituelle. C'est ce qu'ont fait cette année Bernard Arnault chez LVMH, Jean-Laurent Bonnafé chez BNP Paribas et même à la Cour des comptes, un an de rab pour Pierre Moscovici à partir du 17 septembre grâce à un décret présidentiel recul accordé LIJ pour enfants à charge et scolarisés. Bien sûr, faire des enfants, une autre façon d'acheter l'éternité et d'aider les comptes publics.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans le Mag Écho, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Toute l'équipe vous salue. Valentin Pérez, mon coproducteur, Céline Hilla, la réalisatrice, Anne-Cécile Perrin, notre attachée de production, Pauline Laverdure signe les mix et Céline Guéribi est avec nous aux manettes. L'invité de ce samedi 6 septembre, c'est la présidente de la Commission de régulation de l'énergie qui monte au créneau contre les fake news qu'elle entend dans le débat public sur les factures, sur le coût des énergies renouvelables, on va en parler. Emmanuel Wargon est notre invité, interview vers 9h40. Le maelstrom politique et la colère sociale, que se passera-t-il vraiment avec le mouvement Bloquons tout ? Est-ce que ce mouvement horizontal sans chef nous raconte une nouvelle forme de mobilisation en dehors des grandes centrales syndicales ? Vous entendrez le reportage de Sophia Berada. Et puis pour cette nouvelle saison d'On n'arrête pas les cours, on a bien sûr rendez-vous avec Madame Vioboulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
On a déjà beaucoup de questions pour vous et là, ce matin, c'est notre auditrice Dominique qui vous a écrit.
Oui, Dominique est fonctionnaire, elle est très tentée par une retraite progressive, mais va-t-elle y perdre financièrement ? Je vous dis ça tout à l'heure.
Ouais, Sandrine, on se retrouve juste avant 10h. Mais tout de suite, l'actualité passée à travers les grilles d'analyse de nos débatteurs. Ce matin, je vous salue à Anne-Laure Delatte, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et hello Ludovic Subran.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des investissements de l'assureur Allianz. Alors, le Premier ministre changera ou pas à Matignon dans 48 heures. La réalité économique ne s'en trouvera pas modifiée. La France a un problème de déficit, on en a parlé la semaine dernière. Tout le sujet économique, ce sont les différentes portes de sortie qu'on nous propose. Bloc central, Parti socialiste, Rassemblement national. Quelle famille politique saura nous libérer de la dette ? C'est le débat.
Je ne pense pas que vous redressez la France en faisant du mal à la France qui travaille.
Laurent Wauquiez, député Les Républicains.
La suppression des deux jours fériés, c'est 4 milliards d'euros d'économie. Nous, ce qu'on propose, c'est de fusionner toutes les aides sociales dans une seule aide sociale, plafonnée à 70% du SMIC. Cette mesure-là, nous l'avons évaluée à 7 milliards d'euros d'économie.
Moi, je suis favorable, évidemment, à l'idée de réduire le déficit.
Olivier Faure. premier secrétaire du Parti Socialiste.
Mais ça ne peut pas être au prix de faire payer, comme c'est le cas aujourd'hui, les salariés, les malades, les chômeurs, les retraités, les jeunes, qui sont les victimes exclusives du plan Bayrou. Et pendant ce temps-là, on ne touche pas aux grandes fortunes, alors que chacun sait aujourd'hui qu'en 8 ans, elles ont vu leur patrimoine doubler.
Dans un référendum, nous pourrions mettre 3 propositions simples.
Clémentine Autain, députée, cofondatrice du mouvement L'Après.
Qui permettrait d'aller chercher les 44 milliards d'euros que n'arrive pas à trouver M. Bayrou autrement qu'en faisant les poches des Français. D'abord, la taxe Zucman. Vous savez, cette taxe sur ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Deuxième proposition, un impôt minimum sur les multinationales. Et ma troisième proposition, c'est d'arrêter de mal gérer les comptes publics en donnant des aides aux grandes entreprises sans aucune contrepartie sociale et environnementale.
Lorsque vous demandez des efforts aux Français...
François Bayrou, Premier ministre.
Il n'est pas possible que le sentiment que les Français éprouvent, c'est que eux doivent faire des efforts, et les étrangers, puisque aide médicale d'État, c'est destiné aux étrangers, pas possible que tout le monde n'y soit pas associé. Par exemple, il y avait dans la liste des soins de la balnéothérapie. Bah, c'est pas normal, c'est pas raisonnable.
Il est certain aujourd'hui que la dette augmente. Il est certain que la charge d'intérêt augmente. Il est certain que les taux d'intérêt auxquels emprunte la France augmentent.
Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National.
C'est pas un risque. On est dans cette situation. Et M. Bayrou fait croire qu'il a la tête d'un Titanic flamboyant alors que le Titanic a déjà pris l'eau et qu'il est déjà pas loin de couler. Et j'aimerais que la France prenne la chaloupe avant de couler parce que le capitaine a cru qu'il dirigeait encore quelque chose.
Ludovic Subran, Anne-Laure Delatte, avant de commencer, je voudrais dire exactement aux auditeurs qui vous êtes. Je suis très heureuse de cet éclairage ce matin avec vous. Ludovic, vous achetez pour Allianz des milliards d'obligations d'État. Vous êtes un investisseur qui prêtait aux États. Et vous, Anne-Laure Delatte, vous êtes une économiste que le PS a consultée avec Gabriel Zucman mardi dernier pour donner votre analyse sur leur proposition de budget. On a 3 chemins sur la table. Première question, on a entendu parler des jours fériés qu'il fallait supprimer, des franchises sur les boîtes de médicaments. Est-ce que les Français doivent se résigner, Ludovic Subran, à rogner sur le modèle social parce que la dette est trop importante, parce que le déficit est trop important ?
Malheureusement, oui. Moi, je pense que le modèle social, en partie, est un peu trop généreux pour justement les recettes qu'on a et aussi notre trajectoire de dette. Je donne juste un chiffre. Je crois que c'est Nicolas Dufour qui a publié ça un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'à peu près...
Le patron de la BPI.
Exactement. 10% des prestations sociales sont financées par de la dette. Donc, ça veut dire que les 3 derniers jours de retraite ou de chômage sont de la dette. C'est pas pour stigmatiser. Je pense que ce qu'a fait le Premier ministre, par exemple, de stigmatiser les boomers, etc., c'était une erreur politique majeure. C'est pas une histoire de conflit générationnel. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai vu la réforme des retraites, je pensais que c'était une très bonne idée de décaler la réforme des retraites de 62 à 64 ans. Et on a mangé les 15 milliards qu'on a économisés en un coup, en indexant l'année d'après les retraites sur l'inflation. Et je pense qu'il y a quand même un sujet, on parlait des jours fériés, moi je trouve que les jours fériés, c'est une idée débile, parce que c'est le travail qui ne paie pas assez, et qu'en effet, dans un moment comme celui-ci, il faut trouver une source de recettes ou une source de baisse de dépenses partout. Et ça comprend en effet notre modèle social. On ne peut pas exclure de rogner un peu sur le modèle social. Après, il faut le faire de façon la moins cassante au sens de la casse sociale possible. Et c'est là où je pense que les partis politiques, pour être honnête, font n'importe quoi.
Ok. Il n'y a aucune piste que vous avez entendue qui, pour l'instant,
je trouve,
si on reste sur l'économie, nous, c'est vraiment notre point ce matin.
Elles sont très polarisantes, ces pistes. Et c'est toujours la fraude sociale. On sait que ça rapporte que dalle. Je trouve vraiment qu'on est sur quelque chose qui ressemble au concours Lépine de la bêtise.
Mais ça veut dire peut-être qu'ils ne trouvent pas. Bon, on va continuer d'en parler. Anne-Laure Delatte, le modèle social, il faut se décider, dit Ludovic Subran, il va bien falloir que certains fassent des efforts.
En fait, ça dépend de la façon dont vous voyez le problème. Un problème de déficit, c'est, comme vient de le dire Ludovic, on n'a pas assez de recettes par rapport à nos dépenses. Donc, d'un côté, vous avez les gouvernements successifs, au moins depuis un an, qui vous disent on a trop de dépenses, donc il va falloir sacrifier quelque chose. Entre les services publics auxquels tiennent les Français et les Françaises, c'est-à-dire l'éducation, l'hôpital et la protection sociale, on choisit la protection sociale. On choisit la retraite et le chômage, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à stigmatiser. Il y a des retraités riches, etc. Il y a une autre façon de le voir, c'est que vous n'avez pas assez de recettes. En fait, on n'a pas assez de recettes. Si on a un déficit public dans les comptes publics, c'est que c'est pas que les dépenses sont trop élevées par rapport aux recettes, c'est peut-être que juste les recettes ne sont pas assez élevées par rapport aux dépenses. Et pourquoi on serait dans cette situation-là ? Là, la Cour des comptes, l'OFCE nous éclaire là-dessus. En fait, depuis 2017, la stratégie économique qui s'appelle la politique de l'offre a consisté à baisser les prélèvements obligatoires à la fois des Français et des entreprises. Donc, je le rappelle, une baisse de l'impôt sur les sociétés, une baisse de la taxe d'habitation pour tous les Français, une baisse de l'impôt sur les productions, etc. On arrive à la fin avec 60 milliards d'euros en moins dans les caisses. Donc, soit ça marche et on arrive à redynamiser l'économie française. Et là, on compense, c'est-à-dire que vous avez plus d'emplois, plus d'activités, et on remet de l'argent dans les caisses en imposant normalement. Soit ça ne marche pas, et apparemment, ça n'a pas marché.
Alors, mais je dirais que vous allez presque trop vite, parce que ça, c'est, j'allais dire, c'est notre deuxième porte de sortie. C'est, vous vous dites, il faut taxer plus. Mais sur le modèle social, est-ce que les Français doivent se résigner à rogner ? Est-ce que certains doivent des efforts ? Ludovic Subran nous dit, il y a plein de trucs sur la table, débile, hein, Ludovic,
Mais
il faut faire quelque chose. Et vous, Anne-Laure, votre réponse est non, il n'y a rien à faire ?
Mais si, il y a quelque chose à faire.
On parle du modèle social.
Bah, sur le modèle, en fait, de nouveau, vous cadrez la question comme si on n'avait qu'un problème de dépenses. Moi, c'est ça que je vous dis.
Mais ça, c'est une famille politique, on a bien compris. La deuxième famille politique, si vous voulez, c'est une question.
Enfin, est-ce que c'est une histoire de famille politique ou est-ce que c'est une histoire d'analyse des données qui vous dit qu'un déficit, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est peut-être les deux. Sur les dépenses, en fait, il n'y a pas de niveau optimal de prélèvement obligatoire. La théorie économique, elle ne dit rien là-dessus. C'est une histoire de préférence de modèle social. Est-ce que vous voulez rogner sur le modèle social, mais demander aux Français ? Demander aux Françaises et aux Français, c'est une question politique. Mais ça, pour le coup, là, c'est pas... Il n'y a pas de choix à faire de l'économie.
Ce que dit Anne-Laure est intéressant, c'est-à-dire que les deux points de prélèvement obligatoire qui ont disparu des comptes par les baisses d'impôts des 8 dernières années, en fait, la vraie question, c'est qu'elles n'ont pas été financées à côté par des baisses de dépenses. Quand on a décidé d'annuler la taxe d'habitation, on n'a pas trouvé de recettes en face. Je passe sur le fait que, c'est vrai que depuis Covid, il y a cette tentation du chef de l'État, mais c'est partout, de se mettre en guerre économique, et donc on dépense pour acheter des points de PIB, pour acheter des créations d'emplois. La vraie question, moi, que je trouve que ce que Macron avait planté dès le début de son premier quinquennat, c'était il faut produire plus pour distribuer mieux. Moi, j'y crois vraiment. C'est-à-dire, il faut produire plus. Et aujourd'hui, on a réussi, par exemple, à mettre plus de gens en emploi, notamment l'apprentissage. Il y a des réformes qui ont fonctionné. Maintenant, moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est que on n'arrive pas à avoir une discussion sur quelle partie. Et alors, vous avez publié une tribune
dans le Monde
super là-dessus. C'est-à-dire, moi, je pense que on pourrait taxer plus si on veut financer des choses qui comptent. C'est-à-dire notre modèle éducatif, par exemple, qui est une catastrophe selon l'OCDE. Si on veut faire mieux sur les investissements d'avenir, sur le climat, on sait que c'est 3 points de PIB par an. Donc, moi, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on pourrait envisager des prélèvements obligatoires supplémentaires pour des choses qui ont des forts retours sur investissement. Moi, ce que je me demande aujourd'hui, c'est quand je vois l'épargne majeure des gens retraités en France, ça m'inquiète que les gens qui travaillent, les actifs, à travers le coin fiscal et social, hein, combien la différence entre le brut et le net, ces gens-là ne peuvent plus consommer, acheter, sortir leurs enfants de leur classe sociale. Il n'y a plus de mobilité en France, aussi en partie parce qu'il n'y a plus de reste à vivre suffisant pour faire des choses un peu plus ambitieuses. Et ça, c'est en partie dû, au fait qu'aujourd'hui, il faut 2 salariés pour financer une retraite et que c'est beaucoup trop dense sur les travailleurs, quoi.
Donc vous revenez sur cette idée que, oui d'accord, ce sont les retraités qu'il faudrait mettre à contribution.
Ouais, les retraités et au sens large.
Les gens qui ont de l'épargne.
Moi, par exemple, la discussion sur les taxis, ça m'avait complètement halluciné. C'est vrai que c'est beaucoup trop. Je pense qu'il y a, à mon avis, dans les prestations médicales et de santé, il y a mieux à faire sur la santé préventive. Je pense qu'on gère très mal, par exemple, notre dépendance, notre vieillesse. En fait, tu as raison, les ordres de grandeur ne sont pas là. Ouais,
Le problème, c'est que là, vous cadrez encore de façon. C'est exactement ce que dit le gouvernement. C'est comme on veut sauver l'éducation, comme on veut sauver l'école et l'hôpital, il va falloir faire des efforts sur la protection sociale.
C'est le cœur du sujet de la discussion nationale, en fait.
Oui, c'est ça. Et en fait, on dit aux Français, choisissez. Choisissez. Est-ce que vous préférez travailler plus longtemps ou éduquer vos enfants ?
Et vous, vous dites quoi ? Vous dites, il faut, si on taxe, par exemple, j'avance, il faut, si on taxe les plus riches, on trouve quoi, 15, 20 milliards ?
Ah oui, on ne trouve pas du tout assez, hein. Attention. En fait, on a baissé de 2 points de PIB les recettes, donc ça veut dire 60 milliards par an. Si vous faites la somme des besoins, ils sont très élevés. Pourquoi ? Parce qu'on a un déficit budgétaire qui est, en gros, il faut qu'on trouve 70 milliards dans les 6 ou 7 prochaines années. C'est-à-dire que dans 6 ou 7 ans, il faut qu'on prélève 6 à 7 milliards, 70 milliards de plus par an. Plus, si vous voulez réparer l'hôpital, l'éducation et investir dans l'écologie pour nous protéger, pas pour protéger les citoyens et les citoyennes, mais aussi pour les entreprises, hein, parce que à la première inondation, à la première canicule, on arrête de travailler. Si vous voulez faire tout ça, on a besoin de 130 milliards de plus dans 6 ou 7 ans. Donc vous voyez par exemple la taxe par an. C'est énorme.
Ok, là, Ludovic Subran est en train d'acquiescer. Donc, vous êtes d'accord sur l'ampleur de l'effort.
Et la taxe
Zucman. Et sur les pistes qu'on nous propose.
Moi, un point. Sur cette ampleur-là, moi, je pense qu'il y a une partie qui peut être de l'épargne. C'est-à-dire, tout ne doit pas être financé par le déficit public. Ça, c'est, par exemple, sur le climat, moi, je suis persuadé qu'on peut faire des efforts de 50-50 ou de tiers un tiers. Et donc, la vraie question, c'est comment on fait pour activer une partie de cette épargne dormante. Encore une fois, le déficit a augmenté de 1 200 milliards. L'épargne des Français a augmenté de 1 200 milliards. On a un taux d'épargne beaucoup trop élevé aujourd'hui en France, et il y a un truc à faire là-dessus. Et donc cette épargne, je suis désolé, indexation des prestations de retraite en 2023, il y a 75% de ce montant qui est allé à l'épargne. Et donc
taxation.
Moi, c'est là où,
oui,
entre taxation...
Ben,
je pense qu'il y a d'autres façons de faire circuler cette épargne-là, quoi, que taxer.
On est d'accord. On est d'accord sur certaines choses. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les 130 milliards, on ne va pas en prélever 130, probablement. Moi, aujourd'hui, j'en trouve 90. Mais 90 dans 6 ou 7 ans. Quand même, rappelons que la taxe Zucman, c'est très bien, mais c'est seulement 20 milliards. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer, mais ça ne sera pas suffisant. Est-ce qu'il faut taxer l'épargne ? Est-ce qu'il faut taxer les retraités ?
Est-ce qu'il faut taxer les plus riches ? Est-ce qu'il faut taxer les entreprises ?
Il y a des retraités très riches, mais il y a des retraités aussi qui ne sont pas du tout riches. Donc, il faut probablement faire des transferts entre ces deux populations-là, mais ce n'est pas là qu'on va trouver de l'argent. Est-ce que vous voulez taxer les livrets A ? Bon, taxons d'abord les très hauts patrimoines qui ne payent pas leur juste dû avant de s'attaquer aux petits épargnants. Je crois qu'il y a deux sources d'inefficacité dans le système fiscal français. C'est qu'il y a des gens et des entreprises qui optimisent leur fiscalité, ça veut dire qu'ils ne payent pas autant d'impôts que le reste des Français, que le reste des entreprises françaises. Et on a des aides publiques aux entreprises qui, à un moment, ont été trop abondantes et ne finance pas. En fait,
Emmanuel Macron pourra en parler après. Enfin, ce qu'on a donné pour l'énergie, par exemple, moi, je suis désolé, c'est n'importe quoi.
C'est-à-dire, vous pensez à quoi ?
Y a eu à peu près une vingtaine de milliards qui ont été dépensés pour les entreprises du secteur énergétique au moment de la crise en Ukraine qu'on n'aurait jamais dû dépenser. Enfin, on a fait des aides iniques, quoi.
Et Ludovic Subran, je vais vous poser la dernière question. Est-ce que les marchés, les investisseurs ont une préférence ? Là, on a mis un peu tout sur la table, on a essayé de débattre les chemins. Est-ce que les investisseurs, j'ai presque envie de dire, ont une couleur politique ?
Je ne sais pas s'ils ont une couleur politique, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils aiment quelque chose qui est clair. Moi, par exemple, le Rassemblement National, c'est tellement un gloubi-boulga intellectuel que je pense que ça ferait extrêmement peur. Je me rappelle qu'il y a encore un an, ils voulaient privatiser les autoroutes, ils sont hyper populistes. Alors, quand on fait les comparaisons avec Meloni en Italie, ça me fait doucement rigoler. C'est des gens qui veulent distribuer de l'argent qu'ils n'ont même pas. Donc, moi, je pense que ça pourrait faire très peur. Je pense qu'ils veulent de la continuité, donc une démission du président, ça pourrait faire très peur aussi. Après, jouer à la peur, ajouter le chiffon rouge. Alors c'est vrai qu'en 2022, le programme de la NUPES était extrêmement, à mon avis, confiscatoire. Donc ça a pu faire peur un peu. Là, je trouve que c'est tout l'enjeu.
On parlait de dépenses à hauteur de 250 milliards, hein, c'était ça. Hein.
Oui, mais il y avait en face, après, dans un deuxième temps, ils avaient trouvé des recettes. Mais je pense que c'est pour ça qu'on cherche, à mon avis, le sujet se trouve au centre. On le voit bien, les investisseurs, ils aiment bien le centre, ils n'aiment pas la polarisation.
Du
centre gauche au centre droit, et ça c'est hyper important. Je pense que par exemple, ce motto macronien ne pas augmenter les impôts, ça plaît pas aux investisseurs et c'est pour ça que la prime de risque a été augmentée les derniers mois. Là.
On va continuer d'en parler. Ludovic Subran et Anne-Laure Delatte, ils ont fait le débat, on n'arrête pas les cours.
Real decreto ley para la ampliación de derechos
deindustrialisierung und
unemployment and lower job
creation.
Voyons l'écho comme elle tourne ailleurs, exactement sur les mêmes sujets, la dette, les taux dont vient de parler Ludovic Subran ce matin. On part au Royaume-Uni.
Rachel Reeves says she'll present her autumn budget on the 26th of November. The Chancellor said she thought the economy wasn't working well enough and said there was more to do.
Les infos sur Channel 4. Le budget sera présenté le 26 novembre, vient d'annoncer la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, qui voit encore beaucoup de travail devant elle. A lot to do. Bonjour Edmine Vin.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes correspondante de France Inter au Royaume-Uni. Alors c'est intéressant de savoir ce que compte faire le gouvernement travailliste de Keir Starmer, parce que l'équation a bien les mêmes termes chez vous et chez nous. Le déficit, la dette, les dépenses, les recettes, l'acceptabilité sociale et politique. Et aussi les investisseurs étrangers. On commence par là, Emeline. Parlez-nous de vos guilts.
Eh bien, les guilds, c'est comme les OAT françaises. Ce sont les obligations, les emprunts que l'État fait sur les marchés. Et cette semaine, les guilds, à 30 ans, ont atteint un record ici. Ils n'avaient pas coûté aussi cher depuis 1998. Alors, vous l'avez dit, Alexandra, la ministre Rachel Reeves a annoncé mercredi qu'elle ne dévoilerait pas son budget avant le 26 novembre, d'ici deux mois et demi. Le choix d'une date assez tardive pour se laisser le temps de bien calibrer ses mesures et tenter de rassurer les investisseurs du bien fondé de son plan. Elle organiserait son budget autour de deux axes, un peu comme François Bayrou, ne pas alourdir la dette tout en relançant la productivité et la croissance.
Et alors chez nous, nous nous sommes focalisés sur un chiffre, 44 milliards d'euros d'économie. Chez vous, Emeline, c'est le chiffre de 50 milliards de livres qui fait débat.
Oui, selon certains groupes de réflexion, c'est le montant d'économies supplémentaires que pourrait devoir réaliser le gouvernement travailliste pour le prochain budget. Le plus probable, ce sont des hausses d'impôts ou de taxes. On entend notamment parler de taxes sur les profits des banques ou de nouveaux impôts fonciers. Dans ce contexte budgétaire tendu, l'exécutif de Keir Starmer connaît un revers d'un autre genre, un remaniement. Hier, la ministre du Logement et numéro 2 du gouvernement, Angela Rayner, a dû présenter sa démission après un scandale immobilier qui lui aurait permis d'économiser 40 000 livres de taxes foncières. Rachel Reeves, elle, reste à son poste aux finances, mais comme l'écrivait hier le Financial Times, difficile après ça de demander aux citoyens de payer plus d'impôts.
Emeline Vin avec nous de Londres. (Rire) 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, sera dans ce studio. On parlera des prix, des fake news et bien sûr des textes sur l'énergie qui sont sur pause en attendant que la France retrouve un peu de stabilité politique. Le pays doit-il se préparer en parallèle à un embrasement sur le front social? Mercredi prochain, le mouvement Bloquons tout appelle à une grève de la consommation et à une mobilisation générale. Page Facebook, groupe Telegram, les réseaux sociaux se sont enflammés les premiers, mais ces derniers jours, des assemblées générales de citoyens déterminés à faire entendre leur exaspération se sont organisées sur le terrain. Un mouvement horizontal, sans chef. Alors que se passera-t-il vraiment le 10 septembre? La mobilisation sera-t-elle suivie? Écoutez ce reportage de Sophia Berada.
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Je vous laisse vous présenter.
Je m'appelle Nathan, j'ai 27 ans. J'habite Marseille et actuellement je suis commis de cuisine dans un restaurant. À la base, j'en ai entendu parler du 10 septembre via les réseaux sociaux. J'y prêtais pas énormément attention, mais en fait, au fur et à mesure, je l'ai vu prendre de l'ampleur, je crois, via des tags, des graffitis. Il y avait des affiches aussi dans la rue. Et là, je me dis, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Forcément, les revendications principales sont en lien avec le budget proposé par François Bayrou. Mais je pense qu'il y a notamment la suppression des deux jours fériés. Moi, ça m'a fait l'effet d'un coup de poignard dans le dos. On va geler les minima sociaux. Moi, j'étais au chômage pendant longtemps. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont au RSA aussi. On va faire des économies sur des personnes qui n'ont pas énormément d'argent, qui ont des situations qui sont extrêmement compliquées et qui sont précaires, en fait. Ça me met dans une colère, mais le 10, je sais qu'il y a pas mal d'actions un peu séparées les unes des autres, mais qui vont toutes se coordonner un même jour, en fait. Je sais pas encore exactement où je serai, mais c'est sûr que j'y serai.
Imaginer à quoi pourrait ressembler la journée du 10 septembre n'est pas facile. Pour tenter de le faire, il faut se connecter sur Telegram, c'est ce que j'ai fait. Sur cette messagerie cryptée, des centaines de citoyens s'organisent. Opération escargot, occupation de rond-point, action coup de poing, blocage. Les propositions sont nombreuses. Les volontaires, méfiants envers les médias, postent des appels à rejoindre l'élan sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou TikTok.
Le 10 septembre, en fait, il n'y a même pas besoin de parler, en fait. Regardez la gueule de vos portefeuilles. Regardez la gueule de vos factures. Regardez la gueule de vos tickets de caisse quand vous allez faire vos courses.
On vient tout juste de sortir de l'Assemblée Générale qui a réuni plus de 400 personnes. C'était hyper enthousiasmant.
Même quand on est plus d'un million dans la rue, ça donne rien. Donc il faut trouver d'autres formes d'action et on est là pour en discuter.
Évidemment, on a envie d'en être, comme autant des gilets jaunes, comme autant des nuits debout, comme autant des grandes manifestations.
Selon une enquête de la Fondation Jean Jaurès parue cette semaine, les participants de Bloquons Tous seraient en majorité des militants de la gauche radicale. Le chercheur Antoine Bristiel les décrit comme étant moins confrontés à la précarité que ne l'étaient les gilets jaunes. Ils s'engagent, explique-t-il, pour les autres et contre les inégalités sociales. Les adhérents de syndicats seront-ils aussi au rendez-vous le 10 septembre ? Je me rends à Niort, dans les Deux-Sèvres, à la rencontre de Jocelyne Bossan, la secrétaire générale de Force Ouvrière. Il est tout juste 9h et autour d'elle se réunissent ce matin-là une trentaine de délégués syndicaux du département. J'arrive à la maison des syndicats, une grande bâtisse qui est taguée sur sa devanture. 10 septembre, grève, blocage, sabotage. Le bureau de FO est au troisième étage. Bonjour.
Bonjour.
Sophia Berada de France Inter, est-ce que Madame Bossan
oui,
est là?
Elle est sur le balcon. Merci. Désolée, je vous accueille sur le balcon.
Comment va se dérouler la matinée?
Écoutez, ce matin, nous avons convoqué une commission exécutive de notre union départementale.
Puis au menu des conversations, forcément la mobilisation du 10 septembre.
Je crois que ce sera même le sujet qui va occuper la totalité de notre réunion.
Moi je suis à Elias Bus, fabrique des bus à Orte. On a repris que depuis une semaine, mais tout le monde nous dit il se passe quoi le 10, on fait quoi. Ils sont en attente qu'il se passe quelque chose des salariés, ils en peuvent plus de toute façon.
Bon. Merci à tous d'être présents. Vous vous rendez compte quand même à quel point on nous fait la leçon, la morale, en permanence. Il faut faire des efforts, il faut que les salariés fassent des efforts. Quant aux grands de ce monde, on n'y touche pas parce que sinon ils vont s'enfuir. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots d'ordre qu'on peut voir, c'est les nôtres, hein. La sécu, les questions de salaire, les questions de... Voilà, ce sont les mêmes. Alors, certains peuvent se dire, c'est pas nous. Donc, comme c'est pas nous, attention. Ce qui compte quand même, c'est d'unir toutes les forces pour qu'effectivement, ce soit gagnant au bout.
Alors, je ne peux pas assister au débat, mais je reviens pour le vote. FO de Sèvres va-t-il ou non se mobiliser le 10 septembre?
Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Qui est pour?
Yes! Unanimité! Bravo, bravo, bravo!
Le secrétaire général de FO, Frédéric Souillot, n'a pas appelé à participer au 10 septembre, seulement à l'intersyndicale du 18. Mais vous, vous venez de décider d'y aller quand même.
Je pense pas que ça pose problème du tout. Il n'y a aucune raison que ça le soit. La démocratie, ça commence par le bas. C'est pas de nous dicter à la classe ouvrière, c'est le moment d'y aller ou de pas y aller. Il est certain que si on n'y est pas, on est à côté du train, quoi. Tout le monde se souvient de la mobilisation des retraites, où les confédérations se mettaient d'accord pour appeler telle date, telle date, telle date. Ben, la grève ne s'installait pas, puisque les gens avaient connaissance d'une date de mobilisation, donc ils attendaient la date de mobilisation suivante. C'est certain qu'en face, ils vont continuer de nous regarder passer dans les rues, et puis c'est tout.
Pour Jocelyne Bossan, l'outil le plus efficace reste la grève. Le 10 septembre, elle va tenter de l'organiser dans le plus d'entreprises possible. Le syndicat va aussi appeler à un rassemblement dans le centre-ville. C'est là où j'ai maintenant rendez-vous avec Laetitia Ronté-Morin. Elle tient un salon de thé, tout en couleurs pastel et en velours. Et elle co-préside l'association des commerçants de Niort.
Bienvenue chez nous.
Merci. On peut s'installer
dans un coin. On va s'installer ici, allez-y.
Le mouvement du 10 septembre, elle en a parlé avec les gérants des 80 boutiques qu'elle représente.
Ça les inquiète parce qu'ils ne sont pas dans cette politique-là où ils ont besoin de travailler. Déjà que les centres-villes, je ne vous cache pas, ça reste très compliqué. Dès qu'il y a un blocage comme ça, on sait très bien que les gens vont moins venir. Ça divise par deux notre chiffre d'affaires. Ça dépend évidemment des commerces, hein, mais les commerces qui sont dans le prêt-à-porter, ça sera encore plus compliqué, je pense. J'ai une cliente qui m'a dit je peux, ça se trouve, ne faire qu'un ou deux encaissements dans la journée. Auquel cas, là, c'est dramatique, quand même. Moi, je reste encore un métier de bouche, donc les gens vont quand même venir consommer ou prendre un café chez moi, mais il y a des commerces qui vont être ouverts, voilà, parce qu'il faut être ouvert, entre guillemets, mais pas... sachant qu'en plus, il y a ce TPE pour certains qui sera à l'arrêt.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
On privilégie l'espèce. On va dire qu'un tiers des commerçants ne prendront pas de terminal de paiement cette journée-là.
Il y a des commerçants qui comptent se mobiliser ?
Oui, il y en a certains qui me répondent que c'est leur moyen de contribuer à cette journée.
Un boycott de la carte bancaire, une action originale et plus efficace que les vieilles recettes des mobilisations syndicales. Je pose la question à Baptiste Giraud, maître de conférences en sciences politiques à l'université d'Aix-Marseille.
J'ai quand même des doutes sur le fait qu'une journée d'abstinence consumériste suffise à mettre en difficulté l'économie française. Pour que ça puisse vraiment produire des effets économiques, il faudrait que ce mouvement soit massivement suivi. Ensuite, on imagine mal qu'une journée seule suffise à bloquer l'économie. Et donc, il faudrait que cette modalité d'action soit elle-même reconduite sur plusieurs jours. Ça, c'est difficile à envisager sans organisation existante pour structurer sur la durée la mobilisation. Et donc, la question qui se pose après le 10, c'est quid du 11. Je pense que le syndicalisme, il est mis en tension de deux points de vue. Il est mis en tension dans son rôle de partenaire social parce que de toute évidence, il est contourné, ignoré, marginalisé par les gouvernements et même par les représentants patronaux comme interlocuteurs pour rechercher des voies de compromis dans les réformes à mettre en œuvre. Et en même temps, le syndicalisme français est mis en tension dans sa capacité à organiser le mécontentement. Ce qui ne fait pas de doute dans la situation actuelle, c'est que le mécontentement social, il est très large, qu'il fédère des groupes professionnels et sociaux très différents, qu'il va bien au-delà de ce qu'on appelle communément les bastions du syndicalisme. Et en même temps, ça serait quand même aussi un peu comme pour les Gilets jaunes, la recherche de formes d'action un peu plus innovantes et un peu plus radicales, avec ce sentiment qui est très largement partagé au niveau d'une certaine base militante, que les appels à des journées d'action syndicales sous forme de grève et de manifestation sur une journée ne sont pas de nature à créer un rapport de force suffisant pour contraindre les gouvernements à renoncer à leurs projets ou à faire des concessions.
10 septembre, vers de nouvelles formes de mobilisation, c'était le reportage de Sophia Berada.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
La présidente de la commission de régulation de l'énergie et l'invité du Mag'Écho. Bonjour et bienvenue Emmanuel Wargon.
Bonjour.
La CRE, c'est son petit nom, c'est le gendarme de l'énergie, ça veut dire que vous surveillez le bon fonctionnement du marché et vous intervenez aussi sur les tarifs de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité et du gaz. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, dans les prises de parole, il y a de la colère qui s'exprime sur les factures. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas que la France, celle du plan Messmer, celle de ses 18 centrales nucléaires, 56 réacteurs, arrive à exporter de l'électricité, mais soit même pas capable de fournir des électrons assez bon marché pour eux, les citoyens, et eux-mêmes les PME.
Moi, je comprends très bien l'inquiétude qu'il y a eu sur les prix de l'énergie, puisqu'on a vécu une énorme crise. En 2022, on a perdu un quart de la production nucléaire à cause d'un phénomène technique qui s'appelait la corrosion sous contrainte. Et ça s'est produit au moment où le prix du gaz explosait. Et donc, on manquait d'électricité. On a oublié, puisque maintenant on en a beaucoup de l'électricité, les choses changent d'une année à l'autre. Et quand on s'est mis à manquer d'électricité, comme c'est un marché qui permet d'importer et d'exporter, les prix sont montés. Et c'est vrai que les entreprises, moins les particuliers puisqu'ils ont été bien protégés, mais les entreprises ont été confrontées à une hausse très brutale des prix de l'électricité et du gaz. Et donc ça a donné une forme de prise de conscience. Alors les prix ont baissé, les particuliers ont été globalement assez protégé avec les boucliers, mais les prix de l'électron
c'est
sont
pas
quand
ce
même
qu'ils disent, hein. C'est pas ce
les
qu'ils
prix
disent.
De l'électron avaient monté jusqu'au ciel. Mmh. Ils sont redescendus, mais ils sont redescendus à un niveau qui est quand même plus élevé qu'avant crise. On a regardé en 10 ans, la facture des ménages a augmenté de 45%. Si on enlève l'inflation, elle a augmenté de 20% en euros constants. Donc oui, c'est significatif.
Les salaires n'ont pas augmenté de la même
façon.
Les
salaires n'ont pas augmenté de 20% en euros constants. Donc effectivement, la facture a augmenté. Et je le dis pour les auditeurs, une facture d'électricité, la vôtre, la mienne, c'est en gros 3/3. Un tiers, c'est l'électricité elle-même. Un tiers, ce sont les tarifs de réseau qui sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Et le troisième tiers, c'est les taxes. Et sur les taxes, c'est vraiment un choix du gouvernement, du Parlement, de savoir si on taxe un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Et il y a eu aussi beaucoup de variations sur les taxes. Les taxes sont globalement en ce moment assez élevées.
Mais donc le chiffre que vous citez, c'est en 10 ans, les prix d'électricité ont augmenté de 45%, alors que ce qu'on entend souvent, c'est qu'ils ont doublé.
Exactement. Et donc c'est pour ça que la Commission de régulation de l'énergie, on a décidé de sortir un document cette semaine qui s'appelle « Démêler le vrai du faux », parce que dans le débat sur la vision de l'énergie à moyen-long terme, le cap qu'on veut se donner, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Et donc, on s'est dit que c'était quand même important de redonner au moins des données, des faits. Mmh. Donc, la facture, elle n'a pas doublé. Elle a augmenté de 45% en euros courants, donc les euros que vous payez. Mmh. Et quand on enlève l'inflation, qui en général est un peu compensée dans les salaires ou les prestations, on est à plus 20%. Je ne dis pas que c'est peu, hein. C'est beaucoup, mais c'est juste un fait et ce n'est pas un doublement.
Alors, je ne crois pas que ça soit dans vos fake news, mais peut-être, vous me direz si je me trompe, il y a quelques mois, l'association de consommateurs UFC Que Choisir alertait sur une augmentation massive des tarifs potentiels avec une réforme du marché qui est prévue en 2026. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça?
Alors, il n'y aura pas d'impact au 1er janvier 2026. On a effectivement un marché de l'électricité dans lequel, jusqu'à fin 2025, EDF devait vendre une partie de son électricité nucléaire à un prix qui s'était déconnecté de son coût de production, puisque EDF devait vendre à 42 euros du mégawattheure. Sur notre facture, on consomme des kilowattheures. Les 42 euros, c'est des mégawattheures. Et ces 42 euros du mégawattheure, ça correspondait à un prix historique, un coût de revient historique il y a 15 ou 20 ans, mais ça s'est déconnecté maintenant du coût historique. Cette obligation faite à EDF s'arrête au 1er janvier 2026, mais compte tenu du fait que les prix de marché ont bien baissé, ça n'aura pas d'impact sur la facture des particuliers. Donc on peut vraiment rassurer tout le monde, nous on ne prévoit pas d'augmentation, ou à peu près, pas d'augmentation du tarif réglementé qu'on calcule au 1er février 2026.
Mmh. Il y a le prix, et puis il y a un autre thème qui enflamme les débats, c'est le coût et l'impact des énergies renouvelables. Est-ce que la facture augmente parce qu'on met plus de renouvelables? Et puis, alors, on se souvient de la tribune du président des LR cet été, il dit qu'il faut arrêter de subventionner avec l'argent du contribuable français la construction de renouvelables.
Alors, je voudrais dire deux choses qui sont vraiment importantes. La première, c'est que l'État soutient les énergies renouvelables. Je vais revenir sur pourquoi dans une minute. Et c'est le budget de l'État qui le fait. Donc, ce n'est pas la facture. Alors évidemment, on peut dire, la facture, il y a des taxes, les taxes, elles vont dans le budget, voilà. C'est un budget universel, voilà. Ils rentrent des taxes d'un côté, il y a des dépenses de l'autre. Mais quelles que soient les décisions qu'on prend sur les énergies renouvelables, ce n'est pas directement la facture qui le porte. Donc la facture est complètement déconnectée de ce choix de soutien aux énergies renouvelables. Et pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs, c'est environ 6,5 milliards d'euros par an de soutien aux énergies renouvelables dans le budget de l'État. Ensuite, moi, ce qui me frappe énormément, c'est qu'on est revenu à la guerre de religion entre le nucléaire et les renouvelables, et ce n'est pas le sujet.
Pourquoi ce n'est pas le sujet ?
C'est pas le sujet, parce que notre problème, à la fois en souveraineté, en balance commerciale et en transition écologique, c'est de remplacer le fossile par des énergies décarbonées. Dans notre consommation énergétique en France, tous les jours, c'est à peu près 60% d'énergie qui est toujours de l'énergie fossile. C'est du pétrole, du fioul, du gaz fossile. Le gaz naturel, il est peut-être naturel, mais il est naturellement fossile. Donc le sujet, c'est de remplacer progressivement ce pétrole et ce gaz qu'on paye cher, qu'on paye à l'étranger, qu'on paye à des pays qui sont nos fournisseurs, qui ne sont pas toujours nos alliés. Donc c'est de remplacer ce gaz et ce pétrole fossile pour lutter contre le changement climatique par des énergies décarbonées. Et donc là-dedans, il y a forcément de l'électrification, c'est-à-dire des usages qui sont aujourd'hui du pétrole et du gaz dans le transport, dans le logement, dans le chauffage, vers des usages décarbonés, électricité, biogaz, géothermie, chaleur renouvelable, différentes pistes de ce type. Donc le sujet n'est pas à l'intérieur de notre mix électrique, il est déjà décarboné, on a du nucléaire et des renouvelables. Mais on a besoin de plus d'électricité, c'est là en fait que le débat se noue.
Enfin pour l'instant, oui, pour l'instant on n'a pas vraiment besoin de plus d'électricité puisqu'on arrive à en exporter et puisque la consommation n'est pas au niveau de ce qu'on produit. On n'y est pas encore. Mais... et peut-être même que le prix est en train de freiner, je ne sais pas ce que vous en pensez, notre électrification.
Mais je pense que c'est vraiment tout le sujet. Et ce qu'il y a d'important dans votre phrase, c'est « pour l'instant ». C'est quoi « pour l'instant » et comment est-ce qu'on fait une politique énergétique « pour l'instant » ? La politique énergétique qu'on attend, c'est-à-dire la feuille de route, qu'elle soit un décret qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie ou une discussion législative avec une loi, c'est ce qui doit nous donner un cap pour 10 ans, 15 ans, vers où on veut aller. Et le cap, c'est un cap de sortie progressive du fossile, donc d'électrification. Et l'électrification, c'est aussi des politiques volontaires. Alors, c'est des politiques volontaires de soutien à la transformation, au changement de comportement, passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, c'est pas gratuit.
Attendez, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est là, vous êtes en train de passer un message, en fait. Vous dites, on va avoir, vous dites deux choses. Vous dites d'abord qu'on attend avec impatience cette feuille de route. Je sais pas si vous faites partie, donc celle qui définit notre mix de production, le nucléaire. Est-ce qu'on va construire ces réacteurs? Ça, c'est ce qu'on attend depuis deux ans. Oui. Est-ce que vous êtes en train de dire, il y a urgence? C'est un cauchemar, ce qu'on est en train de vivre?
Je suis en train de dire... C'est difficile de construire l'avenir, de se projeter pour nous, pour nos enfants, pour les générations qui viennent, sans se donner un cap clair. Et donc à un moment, ces débats politiques, ils ont de la valeur, chaque expression politique est légitime, on peut avoir des points de vue différents, mais il faut qu'ils soient tranchés, parce que sinon on fait du surplace. Donc oui, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a besoin d'un cap en politique énergétique, et que de mon point de vue... Le vrai débat, il n'est pas entre les différents modes de production d'électricité, il est entre comment est-ce qu'on arrive à remplacer progressivement le fossile par de l'énergie décarbonée. La programmation pluriannuelle de l'énergie actuelle, celle qui est en vigueur et qui n'est donc pas remplacée par la nouvelle qui n'est toujours pas sortie, elle prévoit des fermetures de réacteurs nucléaires.
12 réacteurs qui devraient être fermés.
C'est pas ce qu'on est en train de faire. L'État a décidé, je trouve ça très bien, de relancer le nucléaire, mais elle est donc complètement décalée. Et puis sur les énergies renouvelables, il y a cette question que vous posez qui est très importante. Est-ce que la production doit anticiper la consommation? Est-ce que la production doit attendre que la consommation arrive? Mais là aussi, c'est un marché. Plus vous avez de production, plus l'électricité est abondante. Plus elle est abondante, moins elle est chère. Moins elle est chère, plus les gens passent à l'électricité, et donc plus on en a besoin. Si on se dit on arrête, on attend la consommation, alors on va se retrouver comme en 2022, avec pas assez de production pour la consommation, des prix qui vont monter et une électrification impossible.
Est-ce que la régulatrice que vous êtes, elle a un message sur « Ok, on aura un budget quand on aura un budget, mais attention, là-dedans, il va y avoir des ajustements sur MaPrimeRénov, sur la TVA pour installer les panneaux solaires. » Est-ce que là-dessus, vous avez des attentes et des urgences ?
Absolument. Bon, d'abord, MaPrimeRénov, j'y suis attachée. Je l'ai créée quand j'étais ministre du Logement. C'est un dispositif auquel je crois vraiment. Évidemment, tout ça, c'est toujours améliorable. Mais je rappelle qu'on avait avant un crédit d'impôt, hein, dont 80% du crédit d'impôt était versé aux 20% les ménages les plus riches. On a transformé un crédit d'impôt en une prime qui est plus élevée quand les revenus sont plus bas pour les ménages les plus modestes et on accompagne des grandes transformations. Oui, mon message, c'est il faut maintenir et sanctuariser les aides à la transformation. Pour la voiture électrique, pour le chauffage, pour les changements de comportement. Certains changements de comportement, les ménages peuvent les faire par eux-mêmes, les ménages les plus aisés, ceux qui ont les moyens. D'autres, c'est difficile. Et ça ramène au 10 septembre, aux gilets jaunes, etc., aux gens à qui on dit « il faut que vous changiez sans leur donner les moyens de changer ». Donc ces aides, elles sont extrêmement importantes pour permettre à chacun de changer vers un comportement et des usages qui sont meilleurs pour chacun d'entre nous, pour la planète, pour la souveraineté et même pour l'économie.
Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, ça y est, depuis cette semaine, la retraite progressive est pour la première fois accessible à tout le monde dès 60 ans. Notre auditrice Dominique travaille dans la fonction publique d'État, ça la tente beaucoup. Mais est-ce judicieux de passer à temps partiel juste avant de partir? Y aura-t-il un impact sur sa pension, vous demande-t-elle.
Dominique, vous n'êtes pas la seule à vous poser la question, car évidemment, la retraite des fonctionnaires est calculée sur les 6 derniers mois de salaire et pas sur les 25 meilleures années, comme dans le privé. Mais je vous explique, le gros sujet n'est pas vraiment là. Je vous prends un exemple. Dès 60 ans, et à condition d'avoir validé 150 trimestres, vous pouvez passer à temps partiel, à 50% par exemple. Vous touchez alors la moitié de votre traitement et la moitié de votre retraite. Et il faut retenir qu'il y a deux étapes. Au moment de l'entrée dans la retraite progressive, il y a une première liquidation de vos droits, mais vous continuez ensuite de cotiser et d'acquérir des trimestres. Et dès l'instant où vous décidez de prendre définitivement votre retraite, votre pension est recalculée en tenant compte de la progression de vos points d'indice et des nouveaux droits que vous aurez engrangés pendant toute cette période.
Est-ce que ça signifie, Sandrine, que Dominique peut prendre sa retraite progressive les yeux fermés ?
Non, surtout pas les yeux fermés, mais avec une bonne calculette et des simulateurs de droits que vous trouverez sur les sites Ma Retraite Publique ou nsap.gouv.fr, voire info-retraite.fr si vous avez aussi travaillé dans le privé. Parce que là, il y a un piège dans le calcul des trimestres. Contrairement au privé, le niveau de salaire d'un fonctionnaire ne compte pas. Pour vous, ce qui est important, ce sont les heures de travail réellement effectuées. Je reprends mon exemple. Dominique, si vous prenez un mi-temps pendant un an, vous ne cumulerez pas 4 trimestres, mais 2. Et c'est cette durée d'assurance qui compte pour le calcul du montant de la retraite. Il y a donc deux solutions pour éviter une grosse décote. Soit vous choisissez de surcotiser, comme si vous étiez à temps plein, mais attention, cette retenue peut être assez importante. Soit vous calculez bien la durée de votre retraite progressive pour être sûr d'avoir tous vos trimestres à la fin.
Et tout ça, Sandrine, ça va être évidemment des arbitrages personnels, mais est-ce qu'au fond, la retraite progressive est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires ?
Oui, c'est une façon intelligente d'aménager les fins de carrière, surtout pour les métiers pénibles. Pareil pour les agents qui sont à temps partiel, dont beaucoup de femmes. En 2023, au moment de la réforme des retraites, 126 000 agents de la fonction publique d'État remplissaient les conditions pour une retraite progressive, dont 8% déjà à temps partiel. Pour eux, c'est tout bénef. Toucher une fraction de sa pension en plus de son salaire, ça ne peut que faire du bien au portefeuille.
Sandrine Foulon, Ma Vie au Boulot.